jours, dans 5 jours, dans l'ensemble de la planète, c'est aussi une dimension économique. D'ailleurs, un récent institut allemand évoque le coût de l'adaptation climatique en termes de pertes, près de 3 000 milliards d'euros que la non-adaptation climatique pourrait occasionner aux économies mondiales. Le président Donald Trump doit en tenir compte. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, qu'on ne peut pas forcément ranger parmi les climato-acquis, plutôt un climato-sceptique, en tant qu'ancien président d'Exxon, lui a indiqué que le retrait ex nihilo de la signature américaine aurait des conséquences en matière de perception, en matière d'influence américaine en tant que secrétaire d'État américain. Évidemment, cela a un impact. Ouais. Et puis, il y a une autre dimension qui est une dimension purement stratégique, le fait que les États-Unis soient devenus un pays exportateur en matière d'hydrocarbures, le fait qu'ils puissent et qu'ils exploitent le gaz de schiste, les met sans doute à l'abri de cette décision qui n'aurait pas forcément que des conséquences économiquement positives pour les entreprises américaines.
Oui, il y a également un autre son de cloche. Évidemment, s'il y a un retrait, ce serait un nouveau pied de nez aux Européens après toute leur campagne au sommet G7. Mais Amadou Cissé, vous le savez, il y a ici des républicains qui doutent de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. D'autres croient que cet accord porte atteinte, comme tous les accords multilatéraux, à la souveraineté américaine. Et qu'au bout du compte, les Américains finiront par encore payer des milliards de dollars pour l'entériner. Alors dans ce débat, nous venons de l'entendre, hein, en fait nous n'entendons qu'un son de cloche. Alors faut-il également accorder un peu d'importance à de tels arguments ?
Ben, merci Jacques, heureux de retrouver tout le monde. Voilà, merci pour la question. Effectivement, il y a des gens ici à Washington, notamment dans la classe politique, les républicains, qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas le fait humain. Alors, une telle opinion existe effectivement et ils ont, disons, des arguments pour étayer leur position. Cependant, je crois que il est sous l'essence de tout le monde que quelque chose de fondamental est en train de changer dans le climat et notamment les gens en Afrique, notamment dans le Sahel, le savent abondamment clair et même ici à Washington où nous sommes, il y avait un proverbe que les quatre saisons se succèdent chaque jour à Washington. On est en passe d'être dans la situation où les quatre saisons se succèdent dans la même heure. Il est évident que le changement climatique est un fait qui est là et on ne saurait l'ignorer. Maintenant, les arguments disant que les Américains vont devoir payer beaucoup plus cher des milliards de dollars. Bon, disons, payer des milliards de dollars, il est aussi admis que les États-Unis sont le deuxième pays le plus grand émetteur de gaz toxiques dans le monde.
Le deuxième, oui. Mais très rapidement, Alain Guy, il faut se calmer quand même un petit peu parce qu'en fait, oui. S'il y a un retrait, s'il annonce un retrait, oui. Ça va se faire en fait à l'horizon 2020.
Exactement.
C'est pas dans l'immédiat.
Non, pas dans l'immédiat parce que puisque le président Obama avait signé cet accord, oui. Et l'accord dit que ceux qui ont signé ne peuvent pas se retirer jusqu'après 3 années. Oui. C'est-à-dire que nous devons nous calmer. Il faut que les esprits soient calmes. Qu'on attende d'abord ce qui va se passer d'ici jusqu'à 3 ans ouais. Après. Et puis à ce moment-là, Donald Trump n'aura qu'une année seulement qui lui sera restée sur son mandat.
Oui. Revenons maintenant sur ces déclarations fracassantes de la chancelière allemande Angela oui. Merkel. Oui. Alors, pensez-vous que c'est un séisme politique dans les relations transatlantiques ?
Non, comme pas nécessairement.
Le New York Times ?
Non, pas nécessairement. Moi, je pense que c'est plutôt un réajustement. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après le plan Marshall, l'Europe s'est reconstruite. Ouais. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui est prospère. Alors, évidemment, Donald Trump pense que c'est ce qui l'a amené à la présidence de la des États-Unis, qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle fairness. C'est-à-dire que les États membres de l'Europe, de l'OTAN, ouais. puissent aussi contribuer ce qu'on leur. Ce qui qu'ils doivent contribuer pour l'ère de France.
Alors justement, vous me tendez la perche, Ngemiya Alenghi. Quand il s'agit de l'OTAN, par exemple, le président Trump n'a-t-il pas tous les droits d'être frustré parce que les États-Unis consacrent 3,61% de leur produit intérieur brut, le PIB, à la défense. La Grèce, l'Estonie, le Royaume-Uni et la Pologne respectent la règle des 2% du PIB comme réclamé par l'OTAN. Mais pas le reste des 28 pays membres, dont la France, l'Allemagne et le Canada. D'ailleurs, on peut voir la carte, l'Allemagne surtout, hein, qui fait beaucoup de commentaires. Alors, pourquoi donc les contribuables américains doivent-ils payer plus pour défendre l'Europe, Emmanuel Dupuis ?
Alors, c'est un argument, là aussi, un petit peu spécieux qu'a utilisé Donald Trump quand il a fustigé le fait que sur 28 membres de l'Alliance Atlantique, 23 n'avaient pas contribué à payer leur part, leur quote-part, si j'ose dire. En oubliant une chose, c'est que la doxa des 2% qui avait été indiquée comme étant vertueuse lors du traité de l'OTAN de Newport en 2014 dépend largement de ce que l'on en fait. Et c'est pas forcément parce qu'on dépense beaucoup en matière de défense que la paix mondiale est garantie. Alors il y a un double effet dans les annonces de Barack Obama. Le côté taux nutriant, le fait qu'ils disent que les États-Unis payent 74% des frais de fonctionnement de l'ONU, de l'OTAN, 22% des frais des opérations extérieures, cache un autre élément. C'est le fait que la plupart des opérations extérieures ne sont plus dans le cadre otanien, mais elles sont dans le cadre de coalition. Donc l'idée d'intégrer ou de mettre en exergue l'OTAN, comme le président Donald Trump l'a appelé de ses voeux, par exemple, pour lutter contre Daesh, est d'une certaine façon assez conforme à ce que ses prédécesseurs appelaient aussi de leurs voeux. J'en veux pour preuve Madeleine Albright dans les années 90, qui avait cette formule « Ne faites pas faire aux soldats américains ce que les partenaires européens peuvent faire à moindre coût ». Donc cette logique du « burden sharing » n'est pas un fait nouveau dans la bouche de Donald Trump. Il l'a dit avec un petit peu plus de fermeté, peut-être moins, avec un petit peu moins de diplomatie, mais c'est évidemment ce que ses deux prédécesseurs ne cessaient de dire. Néanmoins, ce qui est nouveau, c'est le fait que les Européens commencent à comprendre que derrière cette vocation à moins investir dans le domaine de la défense, ce qui, encore une fois, est une vue de l'esprit. Vous avez dit que les États-Unis consacrent près de 3,6% de leur PIB. La moitié des dépenses militaires mondiales sont celles que les Américains consacrent, près de 639 milliards d'euros. Donc on voit bien que les Américains ont aussi un intérêt à ce que puisse se créer un marché de l'armement. Et si les 28 pays de l'OTAN, les 27 autres pays de l'OTAN, consacrent 2%, cela aura un effet immédiat, c'est-à-dire qu'ils achèteront du matériel américain, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le président Donald Trump a été très insistant pour le fait que les pays européens devaient tendre vers ces 2%. Vous l'avez rappelé, l'Allemagne ne consacre que 1,22% de son PIB, et la France, guère plus, 1,7%, mais encore une fois, tout dépend de l'utilisation que l'on fait de cet outil de défense. La France, comme vous le savez, le consacre sur 3 opérations extérieure, et c'est une des raisons pour laquelle elle était un petit peu réticente.
En tout cas, ça a payé une opération réagir, Madame Syrie, Merkel,
sur lequel elle n'était pas
certainement
seule.
Oui. Alors, oui, ça a fait réagir Madame Merkel. Alors, Yael Engi, en fait, même à Bruxelles, Trump n'a pas mentionné ce fameux article 5, en fait, qui prévoit que les Alliés viennent au secours d'un État attaqué. Mm-hmm. Donc, alors, en tant qu'historien, pensez-vous que nous sommes en train d'assister effectivement à un revirement géopolitique, à un éloignement États-Unis-Europe?
Non, je ne pense pas, parce qu'il faut que nous nous rappelions que les rapports, les relations qui connectent les États-Unis et l'Europe ne sont pas nécessairement au niveau militaire, et non seulement au niveau militaire, mais surtout, ce sont des relations et des populations, c'est-à-dire culturelles. Mm-hmm. Et culturelles et religieuses, c'est-à-dire que la plupart des Américains sont venus de l'Europe. Donc ces liens-là ne seront pas si facilement coupés, d'accord, même s'il y a un recadrement des relations entre les États-Unis et l'Europe.
Donc faut pas trop paniquer, hein, recadrement.
Exactement.
Alors une autre thématique qui intéresse le président Trump, c'est le commerce international. Sur les seuls échanges de marchandises, les États-Unis ont accusé un déficit de 146,3 3 milliards de dollars avec l'UE en 2016, dont 64,8 milliards vis-à-vis de la seule Allemagne. Ce sont des chiffres du gouvernement américain. Amadou Cissé, l'administration Trump a-t-elle raison de partir en guerre contre les déficits commerciaux pour réduire le déséquilibre avec l'Union européenne et notamment avec l'Allemagne?
Voilà. Ben, en principe, un déficit doit être corrigé. Un déficit, le terme même dit qu'il y a une inadéquation, disons, dans la balance commerciale. Mais cela étant dit, ouais, il s'agit ici d'un déficit bilatéral. Et le déficit vis-à-vis de l'Allemagne, il est réel, plus de, disons, à peu près 105 milliards de dollars. Mais c'est selon les échanges entre l'Allemagne et les États-Unis. Maintenant, ce qui affecterait les États-Unis de manière claire, c'est le déficit global, son déficit global dans son commerce avec tous les pays du monde. Parce que c'est là que ce déficit-là serait significatif et aura des conséquences sur le niveau de vie des Américains et peut-être sur la valeur du dollar. Mais le déficit bilatéral n'est pas un sujet d'inquiétude. Cependant, si le déficit bilatéral tend à être chronique, oui, là, ça demande de correction. Voilà, et dans ce cas d'espèce, je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, si alors, vous avez...
Je vous propose... Mais... Oui.
J'allais juste ajouter deux mots sur la question précédente. Quand il s'agissait de faire payer 2% du PIB aux pays de l'OTAN, je dois ajouter une chose que les deux interlocuteurs n'ont pas dite, c'est que les 2%, c'est à l'horizon 2024. C'est-à-dire que, bon, même là, la panique a été un peu excessive. C'est que les pays doivent atteindre 2% dans quelques années et non maintenant. Voilà, c'est cette mise au point que je voulais faire.
Ben, merci d'apporter cette précision. Alors, je vous propose maintenant deux commentaires à Facebook. Hassan Omar Boulalé, Djibouti. Les relations entre l'Europe et les États-Unis demeureront solides malgré les doutes des Européens sur la politique de Trump. En fait, vous le disiez tout à l'heure, professeur. Oui. Rodi Longo Luanda, Angola. Moi, je soutiens le président Trump. L'accord de Paris n'offre aucun avantage ni aux États-Unis, ni à l'Afrique, mais à la Chine plutôt. Eh bien voilà, n'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette pause. De retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur le coup de froid diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Avant de retrouver nos invités, Dilly Dico nous propose quelques repères sur les liens américano-européens.
L'alliance transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne remonte à des décennies. C'est surtout après l'entrée en guerre des Américains que les relations modernes entre les deux entités ont décollé. Les États-Unis et l'Union européenne représentent près de 46% de l'ensemble du PIB mondial pour environ 12% de la population terrestre. Ces deux géants concentrent près de la moitié des richesses mondiales. C'est donc au niveau économique que les relations entre les États-Unis et l'UE se manifestent le plus. Dans le domaine économique et commercial, cela se traduit par des accords et des partenariats qui régissent les échanges. Les deux principales structures sont le CET, Conseil économique transatlantique, en place depuis 2007. Il a pour objectif de promouvoir l'intégration économique entre les États-Unis et l'UE. Le TTIP, Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, en négociation depuis 2013. La coopération entre les États-Unis et l'Union européenne se matérialise aussi dans le domaine militaire et sécuritaire. L'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est sans doute la plus grande expression du partenariat entre les États-Unis et l'Union européenne dans le domaine de la défense. Constituée en 1949, cette organisation militaire assure une assistance mutuelle entre les États membres en cas d'agression. D'autre part, les services de renseignement américains et européens collaborent pour combattre le terrorisme, la cybercriminalité et le crime organisé. Le troisième domaine de partenariat couvre les aspects politiques et diplomatiques. À deux, les États-Unis et l'UE représentent plus de trois quarts de l'aide au développement mondial. La cohésion entre les entités s'affiche aussi au niveau de plusieurs positions communes, notamment sur la question du nucléaire iranien. Si les États-Unis et l'Union européenne partagent des valeurs et des intérêts communs qui permettent de nourrir des relations fortes, des sujets de discorde demeurent et de nouveaux challenges apparaissent au fil du temps.
Et voilà, je vous le disais, cette décision américaine sur l'accord de Paris peut tomber à tout moment maintenant et certainement nous vous emmènerons en direct à la Maison Blanche. Voilà, le temps maintenant de deux autres commentaires Facebook. Abdoulaye Tankoum Diallo, Guinée-Conakry, la rupture entre l'Europe et l'Amérique n'est pas souhaitable, mais il peut être utile à l'Afrique dans le cadre des partenariats. Mouloumé Etienne, Bukavu, RD Congo, cela n'affecte en rien l'Afrique car depuis longtemps, les États-Unis et l'UE sont des alliés de confiance. Et nous accueillons de nouveau nos invités, l'économiste Amadou Cissé de notre studio à Washington. Ici à New York, l'expert en relations internationales Ngemi Yaalengi et Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Il est à Paris. Emmanuel Dupuis, justement, au sommet du G7, c'est le président Trump qui a mis l'accent sur le terrorisme. Dîner en parlait tout à l'heure, surtout après l'attaque de Manchester. D'ailleurs, Trump a également décroché l'engagement de l'OTAN dans la coalition anti-groupe État islamique. Après les multiples attentats en Europe, est-ce un problème que les dirigeants européens veulent vraiment prendre à bras-le-corps sans une forte collaboration avec les États-Unis ?
Oui, alors évidemment, c'est une question qui a été absolument structurante. Mais avant d'y répondre, je voudrais rappeler en deux phrases répondre à un de vos internautes qui évoquait le fait... rapidement sur le fait que l'Afrique ne bénéficierait pas de l'accord de Paris. C'est totalement faux, puisque a été décidé lors de la COP21 le principe de la justice climatique dans lequel les États les plus riches s'engagent à payer, à mobiliser près de 78 milliards d'euros par an. 78 pardon millions d'euros par an milliards pardon d'euros par an je vais me retrouver millions d'euros pardon excusez-moi pour aider à ce que les pays africains aboutissent à une économie moins dépendante de l'énergie fossile. C'est le premier point. Et puis effectivement il y a une certaine forme d'injustice puisque l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% des gaz à effet de serre, et pourtant elle contribue très largement à sa diminution, puisqu'elle a diminué de 10 à 15% ses émissions l'année dernière. Voilà, je voulais juste rappeler cet élément
en évoquant
le fait que l'Afrique est bien évidemment
voilà, très rapidement
au cœur.
Très rapidement maintenant sur le terrorisme.
Le temps passe très vite,
allez-y.
Sur le terrorisme, il y a de nouveau une sorte de forfaiture de la part de Donald Trump. Premièrement, il existe de multiples coalitions qui luttent déjà contre le terrorisme. Donald Trump, lors de des jours précédents, sa venue en Europe, à Riyad, avait appelé à la mobilisation des 55 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, moins évidemment l'Iran, pour essayer d'être beaucoup plus active pour participer à la lutte contre Daesh. Mais là aussi, il y a eu un petit peu plus de flou sur d'autres organisations terroristes. Donc, quand les États-Unis appellent à une plus forte mobilisation, c'est pas forcément en direction des Européens qu'ils doivent s'adresser. C'est surtout par rapport aux autres coalitions qui luttent, et malheureusement de manière non suffisamment coordonnée. Je veux bien évidemment parler de la Russie. Oui. Et de ce point de vue-là, la prochaine réunion qui va se tenir à Hambourg en mi-juillet sera le vrai point d'orgue pour montrer si oui ou non il y a une détermination à lutter de concert contre le terrorisme islamique de Daesh au Proche et au Moyen-Orient, et, oui. Et pour nous aider, par exemple, nous, Français, Européens, Allemands, à lutter contre les organisations terroristes qui ne sont pas liées à Daesh, mais plutôt liées à Al-Qaïda dans la bande sahélo-saharienne. C'est surtout ça dont il
s'est agi,
et c'est une des raisons pour laquelle...
– Au sommet du G7, évidemment, il fallait parler du climat, etc., mais il y a ce problème de terrorisme, alors c'est bien d'attirer une belle couverture médiatique en se montrant froid avec Trump, sauf que ces leaders européens ne veulent pas vraiment prendre ce problème à bras-le-corps, enfin, d'après certains observateurs. Hein, donc. Mais Amadou Cissé, j'aurais aimé revenir sur cet aspect Afrique. Que pourrait tirer l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens, notamment au plan économique ?
Ben, au plan économique, tout d'abord, on a deux partenaires. On a deux partenaires séparés. Les pays africains peuvent négocier avec l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre, et, disons, tirer avantage, disons, de deux séries de négociations différentes. Bon, cela étant, les relations séparées entre les États-Unis et l'Union européenne, disons, ne vont pas se traduire de manière significative par de grands changements pour les pays africains. Je veux étayer cela en faisant évoquer l'histoire des relations économiques entre l'Afrique et puis les pays occidentaux. D'abord avec l'Europe, c'était les accords de Yaoundé, je crois, 1975, où les pays africains ont un accès privilégié au marché européen sans contrepartie, c'est-à-dire que les pays européens n'allaient pas exporter chez eux. Et puis en 2000, les accords de Cotonou, où les pays africains peuvent avoir accès au marché européen, mais les Européens vont avoir accès au marché africain. Ça, c'est les fameux APE, accords de partenariat économique. De l'autre côté, vis-à-vis des États-Unis, il y a l'AGOA, qui a été signé en 2000 avec Bill Clinton, qui donne accès préférentiel des Africains au marché américain, et sans contrepartie, disons. Donc voilà deux tableaux différents sur lesquels les pays africains peuvent jouer. Mais je dois avouer que sur le plan des politiques économiques, ce serait comme hier.
D'accord. Il y a Alain Guy, ce coup de froid, États-Unis, Europe. Cela pourrait-il aussi encourager des pays comme la Russie de Vladimir Poutine et la Chine à prendre avantage de la situation, d'après vous?
Oui. En Afrique, certainement. En Europe, je doute très fort, parce que les Européens savent quelle est la politique économique de la Russie et de la Chine. Et les Européens savent que leurs relations avec les États-Unis sont des relations qui sont durables et qui bénéficient aux deux camps, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Mais la Chine et la Russie, pour l'Europe, je doute très fort. Ouais. Alors qu'en Afrique, par exemple, aujourd'hui où nous parlons, la Chine est déjà presque partout en Afrique avec leur politique de donner de l'argent à ces dictateurs sans demander une contrepartie ou bien sans parler des droits humains, par exemple. Alors que l'Europe et les États-Unis mettent l'accent sur, par exemple, les droits humains, la démocratie. Donc la Russie et la Chine vont trouver une entrée d'or, par exemple, sur l'Afrique, mais pas en Europe en tout cas. Là, je doute très fort, parce que les rapports États-Unis et l'Europe sont très durs, sont très forts, et ils vont toujours rester, en tout cas, prépondérants. Donc voilà ce que nous pouvons dire là-dessus.
Emmanuel Dupuis, poignée de seconde, s'il vous plaît. Alors, de manière globale, d'après vous, ces relations un peu tendues, hein, mises à rude épreuve entre Washington et Bruxelles, donc vous pensez que peut-être les choses vont se calmer quand même ?
Moi, je crois que les choses vont évoluer en tenant compte des réalités stratégiques que nous sommes en train de vivre. Au moment où nous focalisons sur les relations entre les États-Unis, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne, se passe un basculement des relations internationales. Au moment où les chefs d'État et de gouvernement se réunissaient, moins la Russie, comme vous savez que la Russie a été exclue du G8 en mars 2014 suite au rattachement de la Crimée à la Russie, se passaient des réunions orientales. Et je pense notamment à une réunion qui s'est passée il y a quelques jours à Beijing, où Xi Jinping a réuni 26 chefs d'État et de gouvernement pour témoigner de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire un basculement oriental des relations internationales qui va de pair avec la création d'une banque d'investissement et d'infrastructure, donc la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure. Et le président Xi Jinping, tout naturellement, a dit que autour de cette route, de la soie, les Chinois allaient investir près de 500 milliards.
Sur ces sujets, évidemment, c'est un long débat. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à nos collègues de Washington et New York. Un petit clin d'œil à nos amis, les partenaires de Vox Africa. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide de New York. Je vous dis à très bientôt. Take care.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.